Un journal présenté par Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Oumi, bonjour à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Cet après-midi, l'objectif, contrer le plan d'occupation de Gaza par Israël. À quoi s'attendre? On fait le point avec Alice Moreno. En Égypte, la fin des loyers fixes dans le pays. Les prix vont augmenter, mécontentement des habitants. Une vague de chaleur en France qui va durer, des pics jusqu'à 42 degrés. Inquiétude face à la prolifération des moustiques tigres. Dans ce contexte, le risque de départ des feux est élevé. L'Office national des forêts fait de la prévention partout en France. Réunion en urgence tenue cet après-midi aux États-Unis pour réagir au plan militaire israélien de contrôle total de la bande de Gaza, décidé cette semaine par Benjamin Netanyahou. Plan qui a suscité des réactions un peu partout dans le monde, par l'Europe, mais aussi par une vingtaine de pays arabes et musulmans, ou encore par le Brésil. Ce matin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'affiche contre ce plan. Des réactions, mais Alice Moreno, que peut-on attendre maintenant de cette réunion?
Cette réunion a pour but d'évaluer les conséquences humanitaires potentielles de la prise de contrôle totale de la bande de Gaza par Israël et de marquer un rejet du plan israélien. Une initiative saluée par le représentant de l'autorité palestinienne aux Nations Unies, mais ici, peu de Palestiniens croient à un impact réel sur le terrain. Côté israélien également, les opposants au plan de Netanyahou ont peu d'espoir, à moins que les États-Unis, membres du Conseil, ne se joignent à la condamnation, me glissaient des Israéliens opposés au plan de contrôle de la bande de Gaza, eh bien, rien ne changera. Il est très peu probable que cette session aboutisse à une résolution car les États-Unis vont sans aucun doute opposer un veto et bloquer toute initiative. Si le président américain Donald Trump n'a pas apporté un soutien clair au gouvernement israélien pour cette nouvelle phase de l'offensive, il a toutefois déclaré « c'est à Israël de décider ». On est donc très loin d'une opposition. Sur le terrain, les troupes israéliennes se rassemblent aux abords de Gaza. Le chef d'état-major Eyal Zamir inspectait ce matin les quartiers généraux de l'armée pour s'assurer de leur préparation. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou tiendra quant à lui une conférence de presse qui débutera quasiment au même moment que la réunion du Conseil de sécurité cet après-midi.
Alice Moreno, correspondante de France Culture à Ramallah en Cisjordanie. À Gaza, alors que des Palestiniens attendaient pour récupérer des colis de farine et des boîtes de conserve, des soldats israéliens ont tiré dans la foule. 37 personnes ont été tuées par balles, portant le bilan humain à 61 369 morts depuis le début de la guerre, chiffre du ministère de la Santé du Hamas, jugé fiable par l'ONU. Les Européens, tous derrière l'Ukraine ce matin pour soutenir Volodymyr Zelensky, exclu de la rencontre Trump-Poutine qui se tient vendredi en Alaska. Sommet pour aborder les pistes de résolution de la guerre russo-ukrainienne. Dans une lettre commune signée, l'Europe demande à ce que l'Ukraine choisisse son propre destin. Position ferme saluée par le général Dominique Trinquant, ancien chef des missions militaires françaises à l'ONU. Il était sur France Info ce matin.
Je trouve que les Européens ont maintenu la pression depuis le départ. Souvenons-nous qu'il y a 7 mois, M. Trump était totalement sur la ligne de M. Poutine. Souvenons-nous également de la séquence à la Maison-Blanche de M. Zelensky humilié par M. Trump. Les Européens sont restés fermes derrière M. Zelensky en appui et M. Trump progressivement a changé de position et s'est mis à émettre des idées et des positions très éloignées de M. Poutine, en affirmant d'ailleurs que M. Poutine le baladait, en finalement envoyant 2 sous-marins nucléaires comme signe d'avertissement. Je prétends que les Européens, en restant fermes derrière M. Zelensky, ont fait changer la position de M. Trump. Alors M. Trump se fait avoir une nouvelle fois par M. Poutine, et donc là, il a accepté une réunion sur le territoire américain en Alaska, avec des positions encore une fois proches de M. Poutine, c'est-à-dire des échanges de territoires qui en fait sont une illusion, parce que les territoires échangés sont des territoires ukrainiens de part et d'autre. Donc je crois que cette réunion, on verra le 15 ce qu'elle donnera, mais les Européens ont eu raison une fois de plus d'être fermes, de marquer à M. Trump que ce n'est pas M. Poutine qui a raison et qu'aucune négociation sur l'Ukraine ne peut se faire sans l'Ukraine.
Le général Dominique Trinquant, spécialiste des questions militaires, ancien chef des missions militaires françaises à l'ONU, interrogé par William Gay-Costa chez nos confrères de France Info. L'Europe a également comme levier d'action contre la Russie les sanctions financières imposées depuis le début de la guerre. Sanctions qui ont privé depuis 2022 la Russie d'une ressource de près de 92 milliards d'euros pour les importations. Or, la Russie trouve des échappatoires avec la crypto-monnaie enregistrée dans des pays voisins, c'est le cas au Kirghizistan, Savanaruelan, où une monnaie appelée A7A5 est apparue il y a environ 6 mois.
L'A7A5 est une crypto-monnaie légale et la nouveauté, c'est qu'elle n'est pas indexée sur le dollar, mais sur le rouble. Commode pour la Russie qui est sous le coup de sanctions financières occidentales. Cette crypto-monnaie est l'œuvre d'un oligarque moldave pro-russe en fuite, Ilan Shor, et d'une banque publique russe. L'objectif ? Permettre aux entreprises et aux particuliers russes de continuer à échanger avec l'étranger malgré les sanctions. Romain Chili est avocat, spécialiste des cryptoactifs. Il explique le cadre légal de telles transactions.
Le fait de faire une transaction en soi en utilisant cette crypto n'est pas nécessairement illégal. En revanche, utiliser une crypto-monnaie, et en particulier cette crypto-monnaie-là, pour réaliser des transactions avec des personnes qui sont sous sanctions, ça, c'est illégal. On le voit quand on va sur le site du projet que ça semble être une initiative d'une personne qui souhaite contourner les sanctions, notamment celles qui visent l'infrastructure, on va dire, traditionnelle qui était utilisée en Russie pour faire des transactions transfrontalières. Et on sait que la Russie a été déconnectée du système SWIFT et donc elle cherche a priori des alternatives pour pouvoir continuer à faire des transactions à l'international avec d'autres banques en dehors de ce système. Honnêtement, je ne pense pas qu'il constitue une alternative technique qui permettra vraiment viablement à la Russie de contourner les sanctions. On est sur des volumes qui sont très faibles. Sur les dernières 24 heures d'échange, on est même inférieur à 10 000 euros.
Ce n'est pas la première fois que la Russie utilise des méthodes de contournement des sanctions occidentales. Elle l'avait notamment fait en partenariat avec la Chine et l'Iran.
En Égypte, des contrats de logements sociaux mis en place sous Nasser seront bientôt détruits. 1,5 million de foyers égyptiens bénéficiaient de ce système mis en place au milieu du XXe siècle. Des contrats qui se transmettaient de génération en génération avec des prix fixes qui n'augmentaient jamais. Mais cette semaine, une loi est entrée en vigueur pour réévaluer ces loyers. Au Caire, Justine Babin est allée rencontrer les Égyptiens concernés.
Dans le quartier populaire de Daher, érigé au XIXe siècle dans l'ouest du Caire, de nombreux appartements sont encore sous ancien loyer. La cinquantaine, Rami vit depuis toujours dans l'appartement à l'origine loué par son père en 1981. Il paie 7 livres par mois, soit désormais l'équivalent de seulement 10 centimes d'euros.
Notre problème n'est pas la hausse des loyers, au contraire, le gouvernement a eu tort de la retarder autant. Les propriétaires ont beaucoup perdu. S'il en avait décidé ainsi il y a 10, 15, 20 ans, avec une hausse raisonnable de temps en temps, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le problème est que lorsqu'ils ont voulu rééquilibrer la situation, ils ont fait n'importe quoi. L'idée d'annuler tout le contrat n'est pas bonne. Les deux parties ont signé ce contrat en connaissance des conditions.
Dans un autre quartier de la capitale, la mère de Sherif Morieldine Bachir n'est pas de cet avis. Elle est copropriétaire de 6 appartements qui lui rapportent au total moins d'un euro par mois.
Ma mère est très contente car elle avait l'impression d'avoir acheté un bien sans valeur. Il y a des gens qui disent on n'a pas les moyens. En réalité, ce sont des commerçants. Ils ont de l'argent, mais ils ne veulent pas quitter le centre-ville.
En attendant, pendant la période de transition, des comités doivent être formés pour préciser le montant des hausses immédiates de loyers. Les prix seront multipliés par 10 ou par 20 dès la première année, selon le niveau de développement du quartier.
Justine Babin au Caire pour France Culture. En France, des précisions sur la possible suppression des jours fériés apportées par François Bayrou dans un courrier adressé aux partenaires sociaux. Il précise qu'aucun salarié ne sera payé davantage s'il travaille pendant les jours fériés. Le gouvernement envisage de supprimer le lundi de Pâques ainsi que le 8 mai, une mesure qui permettrait de récolter un peu plus de 4 milliards d'euros pour le budget de l'État. Autre réforme qui permettrait de faire près de 2,5 milliards d'économies, celle de l'assurance chômage. plombage, précisé jeudi par le gouvernement dans une lettre de cadrage envoyée aux partenaires sociaux. Plusieurs leviers sont précisés, notamment la lutte contre les ruptures conventionnelles abusives et le durcissement des conditions d'entrée dans le système d'assurance chômage. Les réactions des syndicats n'ont pas tardé. Dans un communiqué commun, CFDT, CGT-FO, CFE-CGC et CFTC dénoncent une remise en cause de 70 ans d'acquis sociaux. Il n'y aura pas de décision avant mardi, annonce le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, sur l'accord de Bougival négocié mi-juillet pour la Nouvelle-Calédonie. Le texte signé par les indépendantistes et les non-indépendantistes sous l'égide de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, prévoit la création d'une nationalité calédonienne ainsi que la possibilité de transférer les compétences régaliennes directement à la Nouvelle-Calédonie. L'accord est dénoncé par les indépendantistes, notamment le FLNKS, car il ne prévoit pas de nouveau référendum sur l'indépendance de l'archipel. Le sud de la métropole va suffoquer aujourd'hui, avec des températures dépassant les 40 degrés, voire 42 dans le Gard cet après-midi. Canicule surveillée de près par les autorités sanitaires, en raison de la prolifération de maladies tropicales sur le territoire, comme la dengue ou le chikungunya, transmis par les moustiques normalement dans les pays tropicaux d'Afrique ou d'Amérique latine. Mais à cause du dérèglement climatique en France, le moustique tigre gagne du terrain et transmet ses maladies. Bonjour Mercia Nézic.
Bonjour.
Santé publique France note une augmentation de ses contaminations cette année, deux fois plus de cas que l'année dernière, avec 21 cas de transmission entre mai et août.
Les épidémiologistes alertent effectivement sur la multiplication des foyers de chikungunya dans l'Hexagone depuis 3 mois. À cela s'ajoute l'apparition de la dengue qui pourrait, elle d'ailleurs, connaître un pic en fin de l'été. Des cas autochtones de ces virus tropicaux étaient encore très rares il y a quelques années seulement. Mais ils sont effectivement en augmentation depuis 3 ans. En cause, le dérèglement climatique et la hausse des températures qui étend le territoire du moustique tigre, mais aussi des épidémies mondiales comme celle de la dengue en 2022. Le sud de la France reste la zone la plus touchée, notamment les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Corse. Mais un premier cas de chikungunya autochtone a été détecté à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 2 jours seulement. Des transmissions ont également été signalées en Alsace et au Pays Basque en début de l'été. En métropole, il n'y a pas de cluster, c'est-à-dire pas de gros foyers pour l'instant. Un dispositif de surveillance strict a été mis en place. Chaque cas est investigué, les déplacements du patient sont retracés. Des opérations de fumigation sont menées autour des domiciles des cas autochtones. Il faut à tout prix éviter l'apparition de plus gros foyers. Ce n'est pas toujours simple de poser le diagnostic. Les symptômes peuvent ressembler à ceux de la grippe, mais les médecins sont de plus en plus vigilants.
Merci, Mercia Nézic. Face aux fortes chaleurs dans l'Aude, les massifs forestiers des Corbières resteront fermés aujourd'hui, annonce la préfecture, en raison des risques de reprise de l'incendie. La préfecture parle d'une journée compliquée en raison du vent couplé de fortes chaleurs. Les forêts sont en première ligne pour cette raison. À l'ONF, l'Office National de Forêt, les forestiers sont missionnés pour alerter les promeneurs, mais aussi intervenir avec des citernes. C'est le cas en Charente-Maritime. Illustration sur l'île d'Oléron où s'est rendu Julien Fleury.
Alors que le soleil commence à taper, Elam et ses filles partent pour une rando de 15 km en forêt entre pins et chênes.
C'est l'ombre, la fraîcheur. Okay. On va avoir le droit à un peu de soleil aussi sur la plage, mais pour l'instant, on va profiter de la verdure.
Alors vous savez que quand il y a de la chaleur en forêt, c'est dangereux.
Tout à fait, mais bon. On n'est pas équipé pour déclencher quoi que ce soit.
Pas de cigarette.
Ah non, non, pas du tout.
La cigarette ennemie de la forêt, Odile est directrice adjointe du Petit Train de Saint-Trojan, l'attraction touristique locale.
Tous les saisonniers sont formés à faire éteindre des cigarettes. C'est notre pire angoisse en fait. On est les seuls à exploiter cette partie de l'île, les 300 hectares, ça peut partir... D'un coup.
Les massifs forestiers, également sillonnés par des agents de l'ONF comme Vincent, à bord de son pick-up, une citerne de 500 litres d'eau.
Normalement, on a assez d'eau pour faire 1000 mètres carrés.
Cet équipement, il a servi en fait.
Ah oui, il a servi, oui, sur une voiture. Mais on a bien évité la propagation, on va dire.
Un véhicule qui a aussi un rôle pédagogique, insiste le responsable de l'Office national des forêts en Charente-Maritime, Pierre Beltrando.
Le fait pour le public de voir un véhicule qui circule avec une citerne, ça permet justement donc quand même de rappeler aux gens que le risque existe. C'est pas que dans le sud-est de la France, mais on est également concerné malheureusement.
Sachant que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, tout l'été, Pierre Beltrando et ses hommes font donc de la prévention, mais aussi de la répression face aux comportements les plus imprudents.
Reportage Julien Fleury d'ici La Rochelle, ex-France Bleu. Et aujourd'hui, le Vaucluse est placé en rouge pour risque d'incendie par Météo France, ainsi que 15 autres départements classés orange comme la Vendée, les Pyrénées-Orientales ou encore les Alpes de Haute-Provence. Il était l'une des figures de France Culture. François Chasselin est mort cette semaine.
Je sais que j'aime Paris parce que dans le voyage, ce que j'aime surtout, c'est revenir.
On reconnaît sa voix, il avait 76 ans, il est mort cette semaine, a fait un malaise sur une plage du Finistère où il détenait une maison. Architecte de formation, critique et enseignant, il a produit et animé l'émission Métropolitain pendant plus de 10 ans sur notre radio. Émission dédiée à la ville et à l'architecture que l'on peut encore écouter dans les archives sur le site de France Culture. Le temps de cet après-midi, la moitié de la métropole est placée en alerte orange. Canicule, 42 départements sont concernés de l'Allier aux Pyrénées-Orientales. Côté température minimale, 21 à Cherbourg, 39 maximale à Montpellier. C'est la fin de ce journal, il a été préparé avec M. Le Chili à la technique d'Aliya.